souviens de nous et d'autrefois, de fils barbelés, de prisonniers du pays aux horreurs, où l'on brûla vos frères et vos sœurs. Parfois vos crimes me hantent et j'ai mal, me rappelant l'infernal.
Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Et puis, ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour protester.
Le pasteur allemand, Martin Niemöller, a survécu au camp de concentration nazi. Ce sermon, il l'a prononcé devant une communauté protestante à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Charles Zelti avait 15 ans lorsqu'il a rejoint un groupe de résistants communistes juifs en août 1942 à Lyon. Arrêté le 7 mars 1944, après avoir transité par Drancy, il arrive avec le convoi numéro 70 à Auschwitz.
Il sera libéré à Bergen-Belsen en avril 1945. Il n'a cessé depuis de témoigner pour expliquer comment ce cauchemar collectif a été rendu possible et ce qu'il a été. Quand il reprend les mots du pasteur Niemöller, c'est bien pour pousser à la vigilance permanente, pour crier. Plus jamais ça. Mais le cri ne suffit pas, il faut expliquer, faire comprendre.
C'est ce qu'il a fait avec nous à Auschwitz, par une belle et douce journée de printemps, d'un bleu limpide, où entre ses commentaires, ceux d'Alban Perrin venu du mémorial de la Shoah, ceux de Teresa, notre guide polonaise, il n'y avait place que pour de lourds silences, perturbés par le léger gazouillis des oiseaux. Et pourtant...
Mesdames, Messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire.
Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte, et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Toute vraie maman n'a qu'un souci, c'est la santé de ses chers petits. Dans ce but, elle les nourrit. À la bonne margarine, a dit la bonne. Bonne margarine, a dit. Voilà pour les petits, la source de vitamines. Oui, oui, c'est moi qui vous le dis. La margarine, a dit, leur donnera joyeuse mine. Tous vos enfants seront grands, bien portants, grâce aux merveilleuses vitamines. Vitamine A et vitamine D que fournit la margarine, a dit. Bonne, bonne margarine, a dit. À tous grands et petits, donne la santé et la vie.
Le 10 juillet 1940, devant la débâcle de l'armée française, les députés votent à la quasi-unanimité les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Le héros de Verdun apparaît pour l'immense majorité des Français comme le dernier bouclier contre une réduction en esclavage de la France sous le joug allemand. Le général de Gaulle, de son côté, a déjà lancé le 18 juin son appel à la résistance.
Pour Pétain, la collaboration est la voie pour épargner à la France un asservissement total. Mais la pression des nazis et l'idéologie de l'État français conduisent très vite à un collaborationnisme affiché dont les Français de confession juive ou d'origine juive vont être directement les victimes.
Pour Vichy, parmi les responsables de la défaite qu'il faut exclure de la société, les juifs figurent au premier rang. La persécution des juifs va être mise en œuvre. Elle s'appuie sur une succession d'actes juridiques et une discipline administrative très efficace. L'escalade de l'antisémitisme de l'État français obéit à un processus d'abord autonome d'éviction des juifs de nombreuses fonctions, de définition de la race juive, de recensement de la population, d'internement dans des camps français comme Gurs, Rivesaltes, Pithiviers, puis d'organisation de convois vers les camps de la mort qui passeront par Drancy. Les juifs sont stigmatisés comme une minorité marginale à qui l'on ôte les droits élémentaires de citoyens.
En 1939, il y avait autour de 300 000 juifs en France, dont près de 200 000 à Paris, ce qui ne représentait que 0,75% de la population française, mais près de 4% à Paris. Ces chiffres ont augmenté en 1940 avec l'exode des juifs belges et des hollandais et l'expulsion des juifs du pays de Bade et du Palatinat, qui ont porté le total à près de 340 000, dont deux tiers d'étrangers. En même temps commençait le reflux de la zone occupée vers la zone libre.
L'État français a précédé avec zèle l'idéologie nazie en promulguant un premier statut des juifs. Les fonctionnaires, et principalement la police, vont contribuer à la persécution des juifs, même si certains vont agir parfois pour les protéger.
J'ai trouvé l'autre jour notre maison déserte. En vain je t'appelais l'angoisse au fond du cœur. La porte du jardin était encore ouverte. Tu venais de partir brisant notre bonheur. Alors en découvrant dans le sable doré l'empreinte de tes pas, longuement j'ai pleuré sur tes pas, en murmurant tout bas, la prière d'adieu d'un départ douloureux qui m'emplit de détresse. J'ai pleuré sur tes pas, voyant mourir déjà tout un passé d'amour fait de tant de beaux jours et de nuits de caresses. Vers ton nouveau destin, vers ton rêve incertain, tandis que tu partais, moi tout seul je restais, fixant avec tristesse le sol où j'ai trouvé ton souvenir gravé et le cœur déchiré comme un enfant tout bas, j'ai pleuré sur tes pas.
Les 16 et 17 juillet 1942, 13 152 juifs parisiens, dont 4 115 enfants, étaient arrêtés par la police française au cours d'une opération baptisée cyniquement « Vent printanier ». La plupart d'entre eux mourront à Auschwitz.
Passés dans l'histoire sous le nom de Ralph Duveldiv, du nom du lieu où une partie d'entre eux ont été conduits avant leur transfert vers les camps d'internement de Drancy, Beaune-la-Rolande ou Pithiviers, cette vague d'arrestations ne fut ni la première ni la dernière, mais elle a été la plus massive. Les Ralph ont débuté le 14 mai 41, les dernières au printemps 1944. En tout, 76 000 juifs de France ont été déportés vers les camps nazis.
Ses 4500 policiers, selon les chiffres généralement retenus, ont pris part à l'opération des 16 et 17 juillet organisée à la demande des autorités d'occupation, mais sans leur participation. Une cinquantaine d'autobus de la compagnie du Métropolitain ont été réquisitionnés avec leurs conducteurs. Les chemins de fer français ont également contribué à la déportation, ce qui ne doit pas faire oublier les actes de résistance menés par les cheminots. Pour comprendre à quel point la propagande antisémite atteignait des niveaux difficilement imaginables, il suffit de se mettre à l'écoute de la radio.
Je me trouve à nouveau dans la librairie de l'Institut d'études des questions juives, où je trouve M. Laville, qui, à l'Institut, est un spécialiste des questions raciales. Et puisque l'étoile, le port de l'étoile jaune est à l'ordre du jour, je suis venu demander à M. Laville en quoi cette mesure se justifie. Monsieur, les Juifs, évidemment, se lamentent. Et ce qui est plus grave, beaucoup de Français à rien se lamentent pour le compte des Juifs et ont pitié d'eux et de la mesure nouvelle qu'on prend. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui vous paraissait s'imposer?
Oh, mais il ne s'agit pas le moins du monde d'une mesure vexatoire ou délibérément vexatoire. C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol, mais d'une façon fort tenace, et ils sont venus surtout pour profiter, et très peu pour travailler réellement. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. S'ils le savaient, ils se tiendraient sur leur garde. C'est ce qui n'arrive pas.
Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous.
Oh, peut-être 50%, mais les 50 autres pourcents sont très peu distinguables. Donc, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître. Eh bien, on leur impose l'étoile de Sion. Ce n'est pas une très grave mesure, croyez-le bien. Les Juifs eux-mêmes arborent à chaque instant cette étoile de Sion sur leur papier à lettres, sur leurs boutiques, sur leurs publications diverses. Et mon Dieu, ils en sont très fiers. C'est en quelque sorte leur drapeau. Nous ne demandons qu'une chose, c'est qu'ils ne gardent plus leur drapeau dans leur poche.
Et est-ce que dans le passé et dans d'autres pays que chez nous, des mesures de même nature n'ont pas dû être prises?
Mais elles ont été prises à de nombreuses reprises. Non seulement les papes, non seulement nos rois ont été obligés à plusieurs reprises de lancer des édits ou des bulles qui ont imposé aux Juifs le port d'un insigne particulier qui s'appelait la rouelle, mais même dans les temps modernes, des pays comme le Maroc avaient dans leur législation des mesures qui imposaient aux Juifs de porter la robe noire ou, dans d'autres pays, un chapeau qui les distinguait du peuple commun.
Il faut donc que les Français comprennent qu'ils n'ont pas à avoir cette espèce de sensiblerie dangereuse en l'espèce, mais qu'au contraire, c'est pour eux, c'est dans leur intérêt que cette mesure est prise.
Mais naturellement, supposez que demain, 1 million de peaux rouges soient répandues sur notre sol. Le public se dirait, mais tout de même, il y a un danger pour notre race ou notre ethnie française, n'est-ce pas? Mais les Juifs ayant la peau tout à fait semblable à la nôtre, les gens n'ont pas aperçu le danger qui est réel.
Flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun. En nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, tu sauves la patrie une seconde fois. Maréchal,
maréchal,
nous voilà,
nous voilà
devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons,
nous
tes gars,
nous tes gars,
de servir et de suivre tes pas. Maréchal,
maréchal,
nous voilà,
nous voilà,
tu nous as redonné l'espérance.
La patrie
renaîtra,
renaîtra. Maréchal,
maréchal,
nous voilà.
Plus d'une quarantaine de convois sont partis pendant la deuxième partie de l'année 1942, c'est-à-dire après la rafle du Vélodrome d'hiver à Paris et en région en juillet 1942 et en août 1942 après la grande rafle de zone sud, rafle organisée par Vichy dans un territoire où il n'y avait pas d'Allemands, ce qui est une spécificité unique en Europe. Lorsque ces Juifs qui partent de Drancy et pour le convoi numéro 8, je le rappelle, directement d'Angers, la gare d'Angers-Saint-Lô, le 20 juillet 1942, lorsqu'ils arrivent sur la Judenrampe, une partie d'entre eux rentre dans le camp. L'énorme majorité est dirigée vers les chambres à gaz. Ils sont mis dans des camions et ils sont amenés jusqu'ici. Ou bien au bunker 1, qui était donc dans les bois derrière le crématoire 5, ou bien ici. Dans cette chambre à gaz provisoire, ils sont entassés. Alors c'est vrai que le chiffre que j'ai trouvé aussi, c'est 1200 personnes entassées dans cet espace. Alors comme on voit aujourd'hui que les fondations, ça paraît impensable, mais il faut avoir aussi en tête que l'entassement était volontaire, puisque était recherché par les nazis, puisque la température idéale d'évaporation du gaz contenu dans les granulés de silice du cyclone B était autour de 26 degrés. Ah, donc l'entassement des victimes était volontaire. C'est ici que le 17 juillet 1942, Himmler en personne assiste à la liquidation du premier convoi de juifs déportés des Pays-Bas. Il va prendre alors une série de décisions. D'abord, c'est lui qui va ordonner que deux baraques de déshabillage soient construites ici pour que les victimes se déshabillent d'abord dans ces baraquements avant d'être conduites vers cette installation. Au départ, les corps étaient enterrés dans des grandes fosses communes qui se trouvaient donc dans cette étendue qui paraît aujourd'hui bien innocente derrière nous. Mais ici, d'après le témoignage du commandant du camp, il y a eu plus de 100 000 cadavres entassés jusqu'à la fin de l'année 1942. Donc là, on était dans un fonctionnement qui s'apparente à ce qu'étaient Treblinka, Sobibor et Belzec, des chambres à gaz, des fosses communes. Mais comme le terrain est marécageux et comme il y avait plus de 100 000 corps entassés dans ces fosses, la situation devenait intenable, y compris pour les SS eux-mêmes. La terre se soulevait, craquelait, un jus noir se répandait à la surface, d'après les témoignages qui sont parvenus jusqu'à nous. C'est la raison pour laquelle Himmler ordonne que ces fosses soient vidées à la fin de l'année 1942. Les hommes qui font ce travail sont ensuite conduits à la chambre à gaz du crématoire 1 à Auschwitz, où ils sont conduits sous forte escorte et tués. Et c'est d'ailleurs la dernière action de gazage qui est perpétrée dans la morgue du crématoire 1. Ensuite, un nouveau Sonderkommando est constitué et ainsi, régulièrement, les hommes du Sonderkommando étaient éliminés. Donc c'est un lieu d'une importance majeure parce que lorsque les Juifs déportés de France à la fin de l'année 1942 arrivent à Auschwitz, ils ne peuvent pas être tués dans ces installations crématoires 2, 3, 4 et 5 qui n'existent pas encore. Donc les victimes de la rafle du Vélodrome d'hiver, en particulier, ont été tués ou bien dans la Maison Rouge, dont il reste aujourd'hui que l'emplacement qui est signalé par un panneau à l'extérieur du périmètre du musée, ou ici même. Voilà. Donc ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce qui est le plus important historiquement à Birkenau n'est pas forcément ce qui est le plus visible aujourd'hui. Et cet effacement des traces participe d'une volonté des nazis de faire disparaître systématiquement les traces de leurs crimes, ce qui est finalement propre à tout assassin.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en Yerevan, un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Sarah et Herge Besnaud, c'est une histoire qui concerne votre région. D'abord, ce qui est illustré à travers l'histoire de cette famille, c'est d'abord que beaucoup de juifs déportés de France étaient des juifs d'origine étrangère, des juifs polonais, des juifs, mais aussi des juifs allemands, puisque beaucoup de juifs allemands avaient été venus trouver refuge en France dans les années 30. Sarah et Herge Besnaud ont été déportés, mais aussi leur petit-fils Henri Borland, qui a fait partie des juifs déportés de la gare d'Angers-Saint-Lô par le convoi numéro 8 le 20 juillet 1942. Contrairement aux résistants, les juifs étaient déportés en famille. Charlotte Delbault, qui elle était une résistante communiste, n'a pas été déportée avec l'ensemble de sa famille, comme ça a été le cas pour les familles juives déportées et déportées à Auschwitz. Elle a fait partie d'un convoi de 230 femmes, dans lequel il y avait notamment donc Charlotte Delbault, Daniel Casanova et Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui témoignera ensuite au procès de Nuremberg. Il y a eu donc 69 convois de déportés juifs qui sont partis de France vers Auschwitz et 3 convois de déportés résistants. Un convoi en juillet 1942, le convoi de Charlotte Delbault en janvier 1943 et un convoi dit de convoi des tatoués en avril 1944. Leur sort est différent puisqu'ils ne subissent pas la sélection à l'arrivée. Ils rentrent tous dans le camp. Ils ne sont pas déportés en famille, ils ne subissent pas la sélection à l'arrivée. Ensuite, le cas de Georges Alpern, peut-être que vous connaissez l'histoire de la maison d'Izieux. Cette maison d'enfants dont les occupants avaient été arrêtés sur ordre de Klaus Barbie en 1944. À travers l'histoire de ces enfants, ce qui est illustré, c'est le fait que sur les 76 000 juifs déportés de France, il y avait 11 400 enfants. Et ça, c'est vraiment la singularité, la spécificité d'un génocide. Lorsqu'on veut anéantir une population, on va s'attaquer également aux enfants. 11 400 enfants juifs déportés de France à l'échelle européenne sur les 6 millions de morts de la Shoah, et il faut compter qu'il y avait environ un quart d'entre eux étaient des enfants. Pierre Masse fait partie d'un groupe de notables juifs qui sont arrêtés en tant qu'otages par les Allemands en décembre 1941 sur ordre par les Allemands et à la suite en représailles des actes de la résistance qui sont commis contre l'occupant, hein, des assassinats de militaires allemands en plein Paris, etc. Donc tous les actes de résistance qui sont réalisés à ce moment-là, en représailles, donc des otages sont faits parmi la population juive, et volontairement les nazis vont faire arrêter les représentants des élites économiques, intellectuelles, sociales juives à Paris, en région parisienne. C'est un groupe de 700 hommes qui sont d'abord placés à Compiègne. Certains d'entre eux sont transférés ensuite à Drancy, c'est pour ça qu'on voit Pierre Masse pris en photo devant les arcades de la cité de la Meute à Drancy. Et malheureusement, Pierre Masse est ensuite déporté à Auschwitz, hein, et où il disparaît.
Notre équipe s'est rendue à Drancy sur le site du camp. Aujourd'hui, c'est un long immeuble collectif en forme de grand U entourant un square central. On y voit un wagon qui rappelle les conditions inhumaines de transport vers l'Allemagne et la Pologne. Charlotte Leprévost, notre accompagnatrice du mémorial de la Shoah, a répondu à nos questions.
Ça a été le plus grand camp d'internement pour les Juifs de France entre 41 et 44, et surtout entre 42 et 44. C'est le principal camp par lequel les futurs déportés passent.
Alors, quelles étaient les conditions de vie au camp, et est-ce que les Juifs savaient ou avaient conscience de ce qui les attendait après leur déportation ?
Alors, les conditions de vie étaient particulièrement épouvantables. En tout cas, dans les premiers temps du camp, il n'y a pas de structure pour faire dormir les internés convenablement et pour qu'ils aient une hygiène aussi convenable. Petit à petit, donc tout ça s'organise. Globalement, ce qu'on entend chez les rescapés qui sont passés par Drancy, c'est qu'ils dormaient sur des paillasses et que la nourriture était quand même globalement insuffisante et mauvaise. Ils n'ont bien évidemment aucunement conscience de ce qui les attend, puisque le discours qu'on leur tient, c'est que soit ils vont retrouver de la famille qui a déjà été déportée. Mais surtout, on ne leur parle à aucun moment d'Auschwitz. Il y a une survivante qui s'appelle Ginette Kolinka qui raconte que elle, qui a été déportée avec son petit frère qui avait 12 ans, était persuadée que où elle partait, il y aurait une école pour son petit frère. Et que, en fait, son père et son frère ont été gazés immédiatement à leur arrivée à Auschwitz.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer combien de temps, en moyenne, les gens restaient dans le camp avant d'être déportés ?
Alors, globalement, ça a varié, mais la plupart du temps, en tout cas ce qu'on peut remarquer dans les témoignages, c'était souvent quelques jours, peut-être une semaine. Ceux qui restaient plus longtemps, c'était ceux qui n'étaient pas considérés comme déportables immédiatement et qui généralement étaient envoyés dans des camps, notamment à Paris, comme la gare d'Austerlitz, où il y avait un tri des meubles et des objets qui étaient spoliés aux gens et qui étaient triés justement dans les hangars de la gare d'Austerlitz.
Pourquoi Drancy ?
C'est un lieu facile d'accès, puisqu'on est aux portes de Paris, et c'est un lieu qui à ce moment-là est abandonné, vide, et qui a été très facilement transformé en camp d'internement, puisqu'il a été entouré de barbelés, et comme c'était un bâtiment en forme de U, il suffisait juste en fait de fermer l'entrée pour emprisonner les gens.
Pithiviers était un autre camp de transit français avec Beaune-la-Rolande. 16 000 personnes y sont passées. À partir de mai 1941, les Juifs parisiens y sont acheminés. En mai 1942, les départs pour l'Allemagne commencent et des victimes, dont celle de rafle du Veldiv, arrivent jusqu'en septembre. Dans cette petite ville, si les habitants étaient comme la plupart des Français, concentrés d'abord sur leurs soucis de la vie quotidienne, on ne mesurait pas bien le rôle du camp.
De ci, de là, quelques gestes de solidarité. Mais visiblement pas du côté d'une administration attentive aux ordres du maréchal. Lucien Pellois est président du Souvenir français de Pithiviers. En 1942, il avait 8 ans et habitait en limite du camp. Il se souvient des bruits de train la nuit et des cris de séparation. D'autres images lui reviennent.
La sucrerie de Pithiviers employait pas mal d'ouvriers à l'époque dans les travaux saisonniers, les cultivateurs. Et puis quelques usines, les établissements Gringoire, Perron, Louis-Robert. Le courrier, il partait de différentes façons. Moi-même, on avait des jardins, puis à l'époque, même malgré notre jeune âge, on était des férus de jardinage. Alors, quand ils savaient nous retrouver, on retrouvait du courrier, il arrivait qu'on retrouve du courrier lesté autour d'un caillou. Mais le courrier partait aussi de différentes façons. Le laitier, on retrouvait entre ses pots de lait. Il y avait un libraire qui retrouvait ça aussi dans sa voiture. Même le charbonnier, on a retrouvé des lettres, un jour ne pouvant pas baisser la glace de sa camionnette, on a retrouvé qu'elles étaient glissées entre la glace et dans la portière. À l'origine, il y a eu quelques Allemands qui sont venus pour régler certains détails administratif, mais enfin après c'est la gendarmerie, la police d'État qui a repris tout en main. La gestion du camp, ça dépendait de la préfecture de Gouaret. Le convoi 6, ce sont des Allemands qui sont venus séparer les mères des enfants. Et ça, je me rappelle très bien les vociférations en allemand. Et c'est la seule fois où les Allemands sont intervenus dans le camp. Et les gendarmes n'étaient pas d'une agressivité, mais ils étaient obligés d'obéir à certains ordres. Et puis les gendarmes se méfiaient les uns les autres. Entre autres, moi j'avais un gardien-chef qui habitait en dessous dans l'immeuble où on habitait. Il habitait au rez-de-chaussée. Et on voyait bien qu'il était à l'affût de tout, des renseignements. Enfin, il paraît que c'était pas un tendre.
...340 000 juifs en France en 1940 et 76 000 déportés. Des actions de solidarité, principalement dans les campagnes françaises, ont permis de protéger des juifs et particulièrement des enfants. La Sarthe en a accueilli de nombreux. Jacques Chénier apporte son analyse d'historien.
Alors les explications que moi je donne sont les suivantes. Vous savez que pour qu'il y ait des enfants juifs qui viennent dans la Sarthe, il fallait donc qu'ils soient emmenés. Emmenés par qui ? Soit par leurs parents. Donc des parents ont emmené leurs enfants pour les sauver. Et pour se sauver aussi eux-mêmes d'ailleurs. D'autres ont été amenés par l'OSE, c'est-à-dire Organisation de Secours aux Enfants, qui est une organisation juive. D'autres ont été amenés aussi par une organisation chrétienne caritative qui s'appelait Notre-Dame de Sion et qui a pu faire amener beaucoup d'enfants dans la Sarthe. Donc il y a un certain nombre, et puis d'autres l'ont fait par relation. Donc il y a un certain nombre de faits qui ont fait que beaucoup d'enfants, beaucoup de juifs sont venus dans la Sarthe à ce moment-là pour se sauver. Alors pourquoi cela ? D'abord, la première raison, à mon avis, c'est que il y a les voies de chemin de fer, les voies de communication. La Sarthe, Le Mans plus exactement, c'est un carrefour. C'est un carrefour nord-sud et est-ouest. La gare du Mans à l'époque était extrêmement importante et on venait au Mans pour faire des correspondances soit pour la Bretagne, soit pour la Normandie, soit pour l'Anjou. C'est par le Mans que ça passait. Donc, c'est un carrefour de communication. C'est facile de venir au Mans. D'autre part, beaucoup de Sartois se sont installés à Paris. C'est le cousin, vous savez qu'à la période, beaucoup de Parisiens vont se redécouvrir leurs cousins de la Sarthe, et de le contraire aussi d'ailleurs. Souvent on a de la famille à Paris, qui remonte à peu près à cette époque-là. Donc il y a un courant migratoire entre la Sarthe et Paris qui est relativement important, ce qui crée automatiquement des relations, un système relationnel. Autre élément qu'il faut bien comprendre, beaucoup de nourrices parisienne, qui allait donc à Paris pour élever des enfants, était sartoise. Ce qui fait qu'il y a il y avait donc des flux naturels. Et en plus de cela, il s'est trouvé qu'il y a eu des gens exceptionnels dans la Sarthe. Les époux Guillemin, par exemple, de Bonne Étable, ont été exceptionnels parce qu'une partie des enfants de l'Ausée passait par chez eux. Et après, ils les redispatchaient en fonction donc d'un réseau intérieur qui fonctionnait bien. Dans la campagne sartoise, si Guillaume, je pense, n'y échappe pas, les gens ont dit que ce sont des taiseux. On ne cause point. On sait, mais on ne dit rien. Il y a Abraham Zimmermann, qui est toujours vivant, qui habite Bonne Étable, qui raconte que dans l'école où il était, ben, l'instituteur savait, fatalement, le maire savait, le secrétaire de mairie savait, tout le monde savait qu'il n'était pas français, entre guillemets, puisqu'on avait retiré la nationalité pour la plupart des juifs, qu'il était juif, et que, par exemple, quand l'instituteur, quand il faisait un devoir, il ne mettait pas de nom sur son devoir. Et il ne laissait pas de traces, le devoir. Il fallait surtout pas. Parce que si les Allemands venaient, on aurait retrouvé des traces. Donc, il travaillait, mais sans nom. Ça a été difficile à vivre, cela. Mais beaucoup d'enfants ont vécu comme ça. Vous en avez vu beaucoup à Lavaret aussi, qui ont été sauvés de cette façon-là. À Tuffé, dans tout le... Je ne sais pas s'il y en a eu à Sillé, mais il y en a peut-être eu dans la région. Enfin bon, si vous voulez, les enfants juifs ont pu être sauvés de cette façon-là et ils ont été beaucoup plus nombreux. Voilà les explications. Alors, les justes ne se sont pas manifestés pour plusieurs raisons. D'abord, la première, contrairement à ce qu'on peut penser, certains qui recevaient des enfants juifs ont été payés. Notre-Dame de Sion a donné de l'argent, l'OSE a donné de l'argent à certaines familles. Ce qui fait que certaines personnes qui ont accueilli des enfants juifs les ont exploités. Tout n'a pas été rose, contrairement, je pense à une famille de Saint-Ouen-en-Blain en particulier, qui a exploité de manière éhontée les enfants juifs qu'elle avait. Bien. D'autre part, il y a des nourrices qui étaient parfaitement déterminées, connues, des services administratifs qui ont accueilli des enfants juifs. C'est le cas de Mme Moussin à Serenfoultour, ce qui fait que les enfants ont été arrêtés. aussi. Et puis vous en avez d'autres qui l'ont fait véritablement par affection et qui ont gardé des relations affectives. Mais comme tout le monde, et c'était la majorité des cas, mais comme tout le monde après la guerre s'est dispersé, les gens ne se sont pas revus forcément. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui recherchent leurs racines de cette façon-là. Alors ce qui fait qu'on en découvre régulièrement. D'autant que les justes, c'est une marque de reconnaissance de l'État d'Israël vis-à-vis de gens qui ont sauvé des personnes. Vous savez qu'être juste, ça veut dire qu'il y a un diplôme. Et d'autre part, il y a un arbre qui est planté à Yad Vashem où vous avez votre nom. C'est ça que ça signifie être juste, juste parmi les nations. Faut savoir quand même que les gens qui recueillaient des enfants juifs risquaient le même sort que les juifs. C'est-à-dire que quelqu'un qui recueillait des enfants juifs ou d'une famille juive, s'il était arrêté, risquait de se retrouver à Auschwitz-Birkenau dans une chambre à gaz.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Devant ce dernier bastion de l'Europe à l'ouest, fut arrêtée la guerre, la mairie de l'oppression allemande. Il est aujourd'hui la base de départ de l'offensive de la liberté. La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite ni vaincue, la France est debout pour y prendre part.
La libération est marquée par des règlements de compte visant les collaborateurs. L'épuration sauvage aurait un bilan de 10 000 personnes exécutées. L'installation d'un pouvoir régulier permettra de juger les responsables de la collaboration. 40 000 dossiers sont à instruire. Des personnalités diverses et poursuivies pour des faits variés. Des responsables du régime de Vichy, des membres de la milice, des industriels qui ont trouvé l'occasion de lier leurs intérêts à ceux de l'occupant, des commerçants peu scrupuleux et profiteurs, des dénonciateurs de résistants ou de juifs réfugiés. Pétain ne se sent coupable de rien. Il s'est plié aux exigences de Hitler, estime n'avoir agi que pour adoucir le sort douloureux de son pays. Mais les statues des juifs en 40, les camps de transit pour déportés, la rafle du Veldiv rappellent la nature profondément antisémite du régime de Vichy et ses crimes. Pétain est condamné à mort. De Gaulle commu la peine en détention à perpétuité. C'est à l'Île-Dieu que le vieillard meurt en 1951. Pierre Laval, l'ancien ministre de Vichy, a tenté de fuir en Allemagne, puis en Espagne. Jugé, il sera fusillé. Le procès de Joseph Darnan, qui sera fusillé, donne aussi l'occasion aux magistrats de condamner les activités criminelles de la milice. Cette organisation militaire, fondée en 1943, a rassemblé 35 000 adhérents. Elle participe aux opérations conduites contre la résistance, traque les juifs et les communistes. Quant aux fonctionnaires, qui ont appliqué avec zèle la politique antisémite, certains occuperont plus tard des fonctions préfectorales et ministérielles importantes, comme Maurice Papon, qui a fait arrêter les juifs de Bordeaux, y compris de nationalité protégée et des enfants en bas âge. C'est seulement en 1983 qu'il est inculpé pour crime contre l'humanité. Condamné, il est remis en liberté pour raison de santé, en 2002. Les années 80 et 90 verront aussi le procès de Touvier, chef de la milice à Lyon, qui aura bénéficié de protection et l'exécution de Bousquet avant qu'il ne soit jugé, et que le procès permette un travail sur cette période. Tous relevaient d'un chef d'accusation majeur. Crime contre l'humanité.
Pour tous les déportés qui sont revenus, témoigner n'a pas toujours été si simple. Les douleurs sont inscrites profondément. Le souvenir est indélébile, autant que le tatouage qui ne peut disparaître. L'émotion est toujours forte. La sensibilité est toujours à fleur de peau.
Il y avait devant notre porte un grand carton jaune. Il fallait que tout le monde vide ses poches, c'est-à-dire les derniers sous, les derniers billets, les diamants, les lingots d'or, enfin s'il y en avait, tout ça devait être là-dedans. Et ça va être le déshabillage. Et là, on m'a pris ma fortune. J'avais sur moi un vieux blouson tout râpé. Ce blouson, il est toujours dans ma tête. C'était le blouson de mon frère. Et mon frère, c'était la suite. C'est lui qui m'avait mis dans la résistance, etc. Et même encore aujourd'hui, vous voyez, il est dans ma tête. Hein, et ce blouson, même encore aujourd'hui, je le cherche. Et quand je vois des confectionneurs qui vendent des vêtements de cuir, je regarde si je retrouvais le même modèle. Je n'ai pas encore retrouvé.
Le fait d'aller sur les sites des camps, comme nous l'avons fait à Auschwitz, permet de mieux percevoir ce qu'a été le martyr des Juifs et de tous ceux qui, comme les Tziganes, les résistants, y ont été conduits. Même si avant que les Alliés ne découvrent l'horreur, les nazis ont essayé d'effacer un maximum de traces. Alban Perrin.
À Treblinka, à Sobibor ou à Belzec, il n'y a plus aucune trace des lieux de mise à mort des Juifs. À Treblinka, il y a un mémorial avec des stèles. Sur chaque pierre est noté le nom d'une ville dont la population juive a été exterminée à Treblinka. Ces pierres sont posées à l'endroit où se trouvaient les fosses. Sobibor, il n'y a rien. Et à Belzec, il y a très récemment un mémorial et un musée a été ouvert. Mais il n'y a plus aucune trace du lieu en lui-même, du lieu d'extermination. Pourquoi ? Parce que les nazis ont cherché systématiquement à faire disparaître les traces de leurs crimes.
Ne pas oublier, c'est fondamental. Comprendre aussi. Parmi les lieux de mémoire en hommage aux victimes de l'Holocauste, le Mémorial de la Shoah à Paris est un centre de ressources, d'informations, mais aussi de recueillement. Myriam Soussan, au micro de Xavier Elor.
Comment a été conçu ce mémorial ?
Alors ce mémorial, il est conçu à la fois autour d'espaces de mémoire, que sont le mur des noms, et aussi le mémorial du martyr juif inconnu. Donc c'est des espaces où ont lieu des cérémonies de commémoration. Et le mur des noms est aussi un espace où viennent les familles pour se recueillir et honorer la mémoire des victimes juives. Alors donc c'est à la fois espace de mémoire, un musée où sont exposées des pièces d'archives privées et publiques. Et la partie très ancienne du mémorial, c'est le centre de documentation juive contemporaine. Donc c'est des archives précieuses qui ont été données par les familles et des archives publiques. Donc il y a 1 million de pièces d'archives privées et publiques possédées par le centre de documentation juive contemporaine. Ça, c'est l'œuvre d'un homme qui s'appelle Isaac Schneerson. Alors sur le mur des noms, en fait, sont gravés les noms des 76 000 juifs déportés de France. C'est des noms qui sont classés par année de déportation et ce mur a pu être établi grâce aux listes des convois qui ont été retrouvés, des listes de convois au départ de Drancy, du camp de Drancy, donc vers Auschwitz. C'est donc les noms des 76 000 juifs déportés. Parmi eux, il y avait 11 000 enfants. Donc c'est important pour comprendre qu'il s'agit d'une déportation des familles où se trouvaient à la fois donc des personnes âgées, des enfants et des parents. Sur ces 76 000 noms, il y a eu 2500 personnes qui sont revenues de déportation. Donc ça fait un pourcentage de 2%. Le mur des Justes, c'est un mur qui se trouve à l'extérieur du mémorial, le long de l'allée des Justes. Et sur ce mur, il y a les noms des 2700 personnes qui ont reçu le titre de juste en France, avec donc de nombreuses personnes qui ont reçu le titre de juste à titre posthume. Alors le titre de juste, donc c'est un titre honorifique qui est décerné par le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. C'est une des missions de Yad Vashem de remercier les personnes qui ont aidé le peuple juif pendant cette période. Et donc sur la médaille qui est décernée par Yad Vashem, il y a une phrase du Talmud qui dit « Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier ».
Se souvenir, mais pourquoi? Charles Zarty n'a pas perdu un souffle de force militante et de conviction pour l'expliquer et le justifier.
Tous les déportés, en gros, ont fait un serment à peu près identique. Plus jamais ça. Quand j'y réfléchis, personnellement, je ne suis pas le seul, notre plus jamais ça, malheureusement, il a été bien entaché. Des massacres, il y en a eu, disons, pas mal depuis les 60 ans qu'on est revenu. Mais on a continué, on continue encore, si vous voulez, à essayer que ça ne se renouvelle pas. Mais là, je voudrais insister quand même qu'ici, ça n'a pas été pareil. C'était pas un massacre comme on en a revu. Si vous regardez bien tout l'ensemble de Birkenau, ça ne s'est pas construit par un petit entrepreneur du bâtiment du coin, là, du village. Il y a eu dans les usines... Dans des bureaux d'ingénierie de Hambourg, de Berlin, des grandes villes, des gens qui se sont mis sur des planches à dessin et qui ont fait des plans, qui ont mesuré. Ils ont préparé des plans. Avec ces plans, d'autres sont venus ici, des géomètres, pour bien implanter. Parce que quand vous regardez les cheminées, ne croyez pas, vous prenez un mètre, elles sont à égalité. Ce sont des techniciens, des gens compétents. Bon, les médecins commençaient ici, malgré leur serment d'Hippocrate, c'est-à-dire de soigner les malades et de sauver les gens, d'éviter les morts, de trier les gens pour les envoyer à la mort. Les juifs, pour eux, c'était des poulets, c'était des insectes, donc c'était aux médecins de surveiller ça. Quand j'entends parler de contrôle de gens avec de l'ADN, ça me fait penser qu'on contrôlait et qu'on surveillait les juifs avec un tampon. Pour moi, c'est ça. Quand j'entends dans une information me disant une femme, une chinoise, s'est jetée par la fenêtre parce qu'elle a vu les flics et qu'elle croyait que c'était pour la renvoyer chez elle, sans savoir trop où c'était ce chez elle, je repense à certaines des mères juives qui se sont jetées par les fenêtres avec leurs enfants pour ne pas être envoyées au Veldiv ou à Drancy et à Auschwitz. Si vous le permettez d'ailleurs, je voudrais vous lire un poème. Ce poème a été écrit par le pasteur Martin Niemüller, qui était lui interné à Dachau. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Et puis, ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour protester.
Cette série d'émissions a été réalisée par les lycéens de première L et terminale L du lycée Paul Scarron de Ciel-Guillaume dans le cadre de l'option radio et en collaboration avec les enseignants de lettres et d'histoire.
Nous remercions pour leur initiative et leur soutien le mémorial de la Shoah à Paris, principalement Alban Perrin, ainsi que la région des Pays de la Loire dans le cadre de son programme sur l'éducation à la tolérance et à la paix.
Nos remerciements à Charles Zelty, Lucien Pellois, Charlotte Leprovost, Myriam Soussan et toutes les personnes qui nous ont aidés dans cette réalisation. Une reconnaissance particulière à Jacques Chénier pour l'apport de son expertise historique. Cette série radiophonique est une production fréquencillée 97.9 en pays de Haute-Sarthe.